Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous terminons le livre des Nombres, le voyage des Israélites depuis l'Égypte jusqu'aux frontières de la terre promise a été long. Toute une génération a été témoin de la délivrance de Dieu, a douté de ses dispositions et est tombée dans le désert. Cette nouvelle génération se trouve à la frontière de l'héritage de la promesse de Dieu. Dans notre lecture d'aujourd'hui, Dieu énonce quelques instructions finales concernant le partage de leur héritage et la garantie que la terre dont ils hériteront ne sera pas corrompue par les péchés du peuple. Allons-y! La dernière fois, Dieu a montré à Moïse l'ensemble du pays promis à ses descendants. La terre devait être divisée en portions pour chaque tribu d'Israël en fonction de la taille de leur tribu. La tribu de Lévi, cependant, n'avait pas de terre répartie pour elle. Dieu avait promis que lui y serait leur portion dans le pays. Cependant, le peuple avait toujours besoin d'un endroit pour vivre. Moïse ordonna que les Lévites reçoivent des villes à l'intérieur du pays et attribua les terres autour de la ville qui serviraient de pâturage pour leurs animaux. Les Lévites pouvaient ainsi élever leur famille et subvenir à leurs besoins alors qu'ils n'étaient pas au service du Seigneur dans le tabernacle. Dieu prend toujours soin de ceux qui s'occupent de son œuvre. En plus des villes désignées par les habitations personnelles des Lévites, 6 villes seront désignées comme des villes de refuge. Ces villes devaient servir de refuge à ceux qui avaient tué quelqu'un par accident. Dieu avait ordonné à Moïse que ceux qui commettaient un meurtre soient mis à mort. Les familles de la personne tuée pouvaient envoyer quelqu'un pour tuer le meurtrier. Dans ce passage, ils sont appelés les vengeurs du sang. Si quelqu'un tuait une autre personne involontairement, il pouvait se réfugier dans l'une de ces villes et être à l'abri de ce vengeur de sang jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Ensuite, l'accusé pouvait être autorisé à retourner chez lui. Si la personne quittait sa ville de refuge, le vengeur du sang était autorisé à la tuer en paiement de la vie perdue. Dieu enseignait au peuple la justice mêlée à la miséricorde. Toute vie est précieuse pour Dieu. Dieu n'excusait pas le meurtre, mais permettait à ceux qui avaient accidentellement tué quelqu'un d'échapper au jugement immédiat. Dieu donne à la personne l'occasion de se repentir et de revenir parmi son peuple. Dieu nous accorde cette même grâce de bien de manière. N'êtes-vous pas reconnaissante à Dieu de nous accorder autant de grâce lorsque nous péchons? Les versets qui nous rappellent que Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse, devraient nous réconforter. Dieu continue d'accueillir ses enfants égarés et de pardonner leurs péchés. Dans ce passage, Dieu fait clairement la distinction entre le meurtre avec préméditation et la mort accidentelle. Au verset 23, nous lisons qu'il a de la haine contre lui et qu'il lui cherche du mal. Cela me rappelle les détails que Jésus nous donne dans le sermon sur la montagne concernant les pensées et les intentions de nos cœurs. Dieu fait la distinction entre une mort accidentelle qui, bien que regrettable, n'est pas aussi grave qu'une mort préméditée. Dieu assimile la colère et la haine à la commission d'un meurtre. Comme nous devons soigneusement protéger nos cœurs contre la moindre graine de péché dans nos vies, la colère et la haine, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent rapidement se transformer en actes plus graves. Comme il est important pour nous de confesser même les plus petits commencements de péché, avant qu'ils ne s'enveniment et ne se transforment en actes plus désespérés. Le seul chemin vers la vraie liberté est le même pardon que celui que Dieu nous offre. Dieu établit également le processus par lequel un meurtrier devait être jugé. Au verset 30, Dieu dit au peuple que des témoins du crime doivent être produits, Mais un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Rappelez-vous le désespoir des chefs juifs lors de la parodie de procès qui a condamné Jésus à mort. Aucun témoin n'a pu être trouvé pour attester de ses crimes. Même si plusieurs témoins se sont présentés pour attester de sa culpabilité, ils n'étaient pas d'accord entre eux. Selon la loi, il n'y avait tout simplement pas assez de preuves de la culpabilité de Jésus pour qu'il soit condamné. Il est terrible de voir des hommes ignorer la loi de Dieu pour servir leurs propres intérêts. La culpabilité dans le jugement est tout aussi odieuse que la haine qui anime le meurtrier. La grâce de Dieu peut cependant couvrir les taches les plus sombres du péché si nous le confessons. Dans ce passage, Dieu rappelle au peuple que le pays doit être préservé du péché, en particulier du meurtre et de l'effusion du sang qui résulte de la vengeance. Dans les versets 33 à 34, Dieu rappelle au peuple « Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. » Dieu est un Dieu saint qui ne veut pas résider là où le péché abonde. Dieu a voulu un peuple saint et une terre sainte où il pouvait vivre avec le peuple. Dieu désire également vivre dans un lieu saint aujourd'hui sur cette terre. Il nous a choisis en tant que chrétiennes pour permettre à son Esprit Saint de résider au milieu de cette terre méchante. Puissions-nous faire de notre mieux pour offrir à Dieu un sanctuaire propre et libre de tout péché où il puisse résider. En terminant notre lecture d'aujourd'hui, au chapitre 36, nous revenons sur un cas particulier concernant le partage du pays de Canaan entre les possessions et l'héritage du peuple. Les filles de Selophchad avaient reçu tous les droits d'héritage, car leur père était mort avant d'avoir eu un fils. La préoccupation soulevée dans la lecture d'aujourd'hui est que, dans le cas où les filles se marient en dehors de leur tribu, leur portion de terre héritée pourrait passer de la tribu de Joseph, par exemple, à l'une des autres tribus par mariage, diminuant ainsi la portion et causant une confusion quant à la tribu qui avait des droits dans telle ou telle région. Dieu, comme nous le savons, déteste toute confusion et a utilisé cette circonstance particulière pour instruire le peuple que les terres données à une tribu particulière devaient rester en possession de cette tribu. Chaque groupe avait son propre héritage qui devait rester dans la tribu. Les femmes ont fait ce qui leur a été demandé et ont ainsi permis à la tribu de Joseph de rester intacte, comme c'est mieux pour nous lorsque nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu. Alors que nous terminons aujourd'hui le livre des Nombres, je suis si reconnaissante à Dieu d'avoir préservé cette partie de l'Écriture pour nous dans sa parole. Cette transition de l'esclavage à l'état d'héritier de la promesse rappelle tellement mon propre cheminement spirituel. Les Israélites ont commis des erreurs en cours de route, dont certaines très coûteuses, qui ont entraîné la perte d'une génération entière en raison de leur manque de foi en Dieu. Je suis tellement reconnaissante à Dieu pour ses grandes miséricordes. Même si je pêche, il me permet de revenir à lui. Il me pardonne mon péché et me permet de continuer pour lui. Que je me souvienne que chaque pas que je fais avec Dieu dans cette vie me rapproche de lui ou m'éloigne de sa bonté. Que je décide aujourd'hui de marcher fidèlement, main dans la main avec lui, jusqu'à ce que j'entre pleinement dans la possession de la vie éternelle. À la prochaine!